Haraucourt, les derniers hommes. Des pèlerinages de regret s'acheminent vers les cimetières, et les vivants se souviennent des morts. Des hommes disparaissent, et nous pensons à eux. Mais des familles ont disparu, et nous n'y pensons plus. Des peuples ont disparu, et notre attention n'en est guère souci. Des races disparaîtront, et que nous importe? Le monde finira, et c'est bien loin de nous. Allons au cimetière de ceux qui ne sont pas nés encore, et voici ce que j'ai vu. Des siècles avaient passé si nombreux sur notre terre, qu'il ne demeurait plus rien de nous et de notre œuvre, rien de visible. Les générations d'alors étaient si loin des nôtres qu'elles n'avaient même plus de notre aspect, de nos mœurs, la vague notion qui nous reste des ancêtres préhistoriques. Non pas que ces derniers hommes fussent ignorants de tout, au contraire. Notre science moderne, à côté de la leur, semblerait enfantine. Mais ils arrivaient si tard derrière nous que dans la perspective des âges, nous devenions, pour leur regard, les contemporains de ceux qui vécurent dans les cavernes des forêts et qui taillèrent les premiers silex. Ils ne reconnaissaient en nous que des anthropoïdes et s'inquiétaient de nous comme nous nous inquiétons des peuplades qui, sans doute, foulèrent la double région des pôles, seuls habitables à l'époque où survint le premier durcissement de la planète. Alors que les continents en formation geignaient dans une vapeur d'étuve et que le sol équatorial brûlait ainsi qu'un fer rouge. Maintenant, le globe n'était plus le même. Par l'affaiblissement du soleil et la consécutive anémie de la terre, toutes choses avaient changé. La map monde nous présentait une configuration nouvelle. L'Europe était gelée, et l'Asie et l'Afrique aux trois quarts, aussi bien que l'Océanie et les deux Amériques, il ne restait plus qu'une bande transversale allongée entre les tropiques. Le froid ayant gagné de proche en proche, les pôles, en s'élargissant, avaient progressé l'un vers l'autre. Les deux calottes de gel tendant à se rejoindre avaient pétrifié tout et resserré la vie sur un ruban de l'équateur. Elle y râlait et le reste avait disparu. L'explorateur hardi, qui se fut risqué dans les glaces hyperboréennes de l'Espagne et de l'Algérie, n'aurait pu se reconnaître dans les banquises immobilisées, n'aurait pu reconnaître ce qui fut continent et qui fut océan. Et la douce Méditerranée, avec ses vagues recouvertes de givre, était figée sous un froid dont les actuels hivers du Groenland n'auraient même pas pu fournir une idée approximative. Une chose, cependant, témoignait encore de notre existence évanouie. C'était trois sphinx d'Égypte avec deux pyramides. Une récente exploration les avait découverts sous l'amas des glaçons et des neiges, et les savants analysaient avec stupeur les vestiges d'une humanité géante, figée et logée en de colossales demeures, et dont la tête des sphinx donnait l'épouvantable proportion. Aussi, ce monde de finition étranglé entre les tropiques ne comprenait plus que les Guyanes, les Guinées et un troisième continent de création récente formé par les alluvions qui avaient 5 000 ans plus tôt soudé les Antilles. Cette partie du globe, la plus jeune, était aussi la plus fertile, engraissée par les détritus de la mort septentrionale. Mais malgré cette richesse relative du dernier humus, la vie animale et végétale n'y continuait que péniblement, mal protégée par la couche trop mince de l'atmosphère. Et la chose terrestre s'irradiait dans l'infini perdu. Le sol usé ne produisait plus rien, sinon des plantes de misère qui continuent à vivre sans tiédeur et sans eau. Les pins et les érables se hissaient à peine au-dessus des herbes, rabougries, dans l'air terne et les forêts de bouleaux et de chênes atteignaient la hauteur de nos blés. Le soleil, impuissant à évaporer les frigides eaux de la mer, se promenait dans un ciel blafard, sans nuages. La pluie ne tombait plus qu'à des intervalles séculaires, et les sources des rivières tarissaient. Le sol n'étant plus ameubli, devenait rêche et cassant. À la place où furent les forêts vierges, de glauques lichens tapissaient les plaines tropicales, et dans l'abri des serres, la plus truculente des fleurs était la timide edelweiss. Peu de vent, à cause d'une uniforme enveloppe de froid condensée autour d'une planète sans contraste, mais parfois une lente invasion de frimas, si lente qu'on n'y apercevait aucun souffle, et glaciale, si glaciale qu'elle vitrifiait les tiges. Rien ne bougeait, une lumière blafarde affaiblissait les formes, et nombre de choses étaient pâles. Les races d'animaux sauvages, sans abri et sans nourriture, s'étaient peu à peu éteintes. À part les rennes, les loups, quelques ours et des condors. Les espèces domestiques disparaissaient un peu moins promptement grâce à la protection humaine. Cependant, les plus vivaces s'étiolaient, et maintenant il ne restait plus que de rares bisons descendus à la taille des molosses, et plusieurs chiens de montagne, qui peu à peu autant si petits que des chats. L'homme avait moins souffert, enfermé dans des villes denses, vêtu de pelleteries, il se défendait contre la froidure, et la science lui avait livré des aliments chimiques qui permettait de lutter contre l'insuffisance des ressources naturelles. Depuis les temps immémoriaux, il ne mangeait plus, il se nourrissait seulement. Des laboratoires entiers envoyaient à domicile les rations de pilules et d'essence destinées à alimenter communément les gens. L'eau était en raison de sa rareté distribuée avec plus de parcimonie. Malgré la surveillance des pouvoirs, on avait constaté à maintes reprises une tendance peut-être héréditaire au gaspillage de ce précieux liquide, et les suprêmes lois policières de la société tendaient à réfréner ces abus. Les fabriques d'eau artificielle furent soigneusement gardées et la répartition effectuée avec une stricte sévérité qui occasionna des révoltes. On reprochait aux riches de fabriquer chez eux de notables quantités d'eau qu'ils employaient à des ablutions ou autres superfluités. Néanmoins, les troubles durèrent peu et tout rentra dans l'ordre grâce à l'organisation mathématique de ces peuples détachés de toute idéologie abstraite. Que nous aurions tort d'imaginer que ces ultimes rejetons de la nature, race, fut semblable à nous. Le temps, le climat, outre les urgences, avaient modifié leurs pensées et en même temps que leurs besoins. Et même les fonctions avaient transformé les organes. Leur taille était inférieure à la nôtre. Elle avait proportionnellement participé à la diminution du monde naturel, inexplicable de toute chose. Les plus forts atteignaient à peine aux dimensions d'un enfant de 7 ans, mais leur tête était égale au double de la nôtre. Et oscillait sans cesse sur un cou grêle et fragile. Les membres étaient incroyablement petits, minces et courts, impropres à marcher et impropres à travailler, et les pieds infimes. Mais les 12 doigts, minces, longs, spatulés au bout par l'habituelle pression des claviers, se manifestaient plus aptes que les nôtres au maniement des outils délicats. Et depuis que la machine accomplissait tout labeur matériel de notion et de locomotion, ces êtres dispensés de l'effort agissaient peu par eux-mêmes, ne mangeaient pas, toujours assis devant leur mécanique. Ils avaient la poitrine étriquée, et le ventre plat et les articulations énormes, nouées par un arthritisme congénital. Tout leur corps était blême et glabre, comme poussiéreux. Leur crâne chauve et leur face ne portaient plus la trace d'aucun duvet. Et leur épiderme, même dans la jeunesse, ressemblait à du papier de soie qu'on a froissé longuement. Inutile, les dents étaient tombées. Et le maxillaire inférieur, hors d'usage, s'était réduit au point de ne plus présenter qu'un imperceptible saillie, vestige de menton qui menaçait et s'avançait au-dessous de la bouche. Celle-ci était étroite, avec de minces lèvres. Le nez était amoindri, comme elle, en sorte que les yeux s'ouvraient dans la partie inférieure du visage, enfoncés dans un front qui se développait outre mesure, et ses yeux tombés aux prunelles trop larges et trop brillantes s'écarquillaient ou clignaient tour à tour dans le perpétuel désir de voir ou de comprendre. Ces monstres trépidaient sans cesse, secoués de petits spasmes furtifs, et dormaient peu d'un sommeil agité par les rêves. La pensée ne leur cédait aucun repos, mais leur cœur était sec, sans émoi, sans pitié, inexorable et égoïste. Ils n'aimaient rien. Ils ne croyaient à rien, pas du tout au-delà. Ils avaient supprimé toute passion comme étant une dépense inutile de force, c'est-à-dire une perte et par conséquent un danger. Ils vivaient chastes et impassibles, appréhendant peu la mort et ne jouissant rien de la vie. Leur jour, leur nuit, dans la hantise des chiffres et des lignes, se passaient en calcul. Leur cerveau considérable avait atteint une capacité de travail et de production en comparaison de laquelle nous ne serions aujourd'hui que des êtres embryonnaires, et les conquêtes de leur esprit seraient inimaginables aux nôtres. La science fournissait tout, et l'homme n'avait plus rien à faire, sinon penser pour découvrir et augmenter encore sans fin le patrimoine de ses forces, dont l'emploi, cependant, allait prendre fin tout à l'heure. Dès qu'une nécessité imprévue se produisait, immédiatement, une intervention répondait aux besoins. Le froid même semblait vaincu, du moins provisoirement. Depuis 8 siècles, il n'avançait plus, endigué par l'énergie de l'homme, qui, pour son usage, attirait à lui la surface de l'écorce terrestre, les derniers frissons de chaleur encore en vibration dans le noyau focal, et au centre de la planète, le travail de décrépitude n'en continuait pas moins, avec lenteur et sûreté. Mais tant qu'une calorie resterait dans les entrailles du globe, elle devait appartenir à ce tyran malingre qui, loin de prolonger l'agonie de la race, retardait la mort d'un astre. Et c'est pourquoi, au fond de l'espace, dans la foule des étoiles toujours étincelantes, le soleil déjà habitable pouvait apercevoir encore la suprême scintillement d'un monde qui persistait à demeurer visible et vivant, parce que la mort venait d'y rencontrer cet obstacle, la pensée humaine.